littérature, expo, cinéma,
théâtre,
bonjour à tous les auditeurs de Transistor, bonjour Pauline.
Bonjour Cyril.
Soyez les bienvenus dans ce 26e numéro de Transversaire consacré au cinéma, un peu plus d'une semaine seulement après le précédent numéro. On espère que vous supporterez notre présence qui se fait de plus en plus récurrente. L'émission sera dans un format un peu différent de la précédente, elle sera déjà plus courte et prendra une forme nouvelle puisqu'elle sera composée de trois petites discussions autour de différents thèmes. La première portera sur le troisième volet de La vérité ci-jement, sorti le 1er février et qui promet d'être un beau succès public puisque 2 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles en première semaine et c'est ce que nous avons remarqué avec Pauline dans notre analyse. La vérité ci-jement 3 s'impose comme le premier film français témoignant d'une nouvelle peur cinématographique, la peur du chinois dans le monde des affaires. Ça devait arriver et ça risque d'arriver encore plus dans les décennies à venir. La seconde discussion portera sur nos pronostics et nos espoirs quant aux deux grandes cérémonies de récompense qui se tiendront à la fin du mois de février. Je veux bien sûr parler des Oscars du cinéma américain et des Césars du cinéma français. Enfin, pour finir, nous accueillons un invité aujourd'hui, Antoine Delahaye, qui a effectué une hippocagne et cagne avec une option de cinéma au lycée Poincaré, qui est désormais à l'IECA, une des rares écoles publiques de cinéma en France. Et il parlera avec nous des études de cinéma en France et de leur avenir.
Bienvenue Antoine.
Bonsoir.
Sans plus attendre, débutons ce 26e numéro de Transversaire, où vous entendrez parler d'Oscar, de son neveu César, de The Artist, de Favori, d'Outsider, de Sefarad et de Chinois.
Champion du monde !
Ah, la vérité, la vérité.
Ah, la vérité.
La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité ?
Oh, bande de bâtards !
Yalla !
Comment il est moisi son Yalla ?
Yalla !
Beaucoup parmi vous, auditeurs, sont comme nous nés à la fin des années 1980 ou au début des années 1990 et n'ont donc pas pu manquer La vérité si je mens, dont le premier volet est sorti, tenez-vous bien, hein, ça ne rajeunit personne, en 1997 déjà. Un deuxième volet qui avait remporté le même succès, avec quasiment la même troupe d'acteurs, était sorti en 2001. 15 ans donc après la sortie du premier volet, sort La vérité si je mens, troisième du nom, sous un battage médiatique rarement vu et qui dure depuis le mois d'août. Avec Pauline, nous sommes allés le voir de gaieté de cœur et nous nous sommes dit que le film disait quelque chose de plus que son statut de grosse comédie populaire ne pourrait le laisser croire. Je tente de vous résumer très rapidement l'intrigue assez complexe, hein, vous irez le voir si vous êtes intéressé. On retrouve les mêmes personnages, à savoir Vuibert joué par Richard Anconina, Yvan Toiti joué par Bruno Solo, hein, suivent les personnages de José Garcia, Gilbert Melki et Vincent Elbaz si je ne me trompe pas. Ils ont quitté le sentier où ils travaillaient dans la confection avec la communauté pied-noir de Paris et travaillent désormais à Aubervilliers où ils font de l'import-export. Pour éviter la faillite de leur entreprise et assurer leur avenir, car Benamou, le personnage de José Garcia, s'apprête à devenir père, ils acceptent de racheter à une entreprise chinoise 800 000 paires de baskets afin de les revendre. Ils trouveront sur leur route Simon, un membre de la communauté séfarade, prêt à leur jouer de très mauvais tours. L'intrigue regorge de rebondissements, de détours, de faux-semblants, etc. pendant près de 2 heures, donc je m'arrête là, et vous en savez l'essentiel. Pauline, je m'adresse à toi désormais. Peux-tu me donner ton sentiment général sur La vérité si je mens 3 ?
Oui, Cyril, je peux te le donner. Il n'est pas bon. Parce que je n'ai pas spécialement aimé le film, je n'ai pas beaucoup ri, j'ai détesté les personnages et je n'ai pas du tout aimé les retrouver alors que j'avais bien ri en 2001, j'avais aussi bien ri en 97. Je voudrais souligner notamment que les producteurs du film ont refusé de montrer le film avant sa sortie. C'est-à-dire que la presse n'a pas pu sortir de critique le jour de sa sortie pour éviter évidemment de se faire écharper. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Et voilà, c'est une des raisons aussi pour laquelle je déteste ce film qui n'a pas joué le jeu. De la critique.
Tu as bien raison, c'est très, voilà, c'est très clair. Hein. J'aimerais quand même savoir, qu'est-ce qui t'a tant choqué et déplu dans ce troisième numéro, qui est quand même assez fidèle à la saga d'une manière générale. Si tu avais aimé le 1, en gros, pourquoi ne pas avoir apprécié
le 3? Au contraire, parce que j'ai aimé le 1, je n'aime pas le 3 qui est le 1 en dégradé. Mais je vais te détailler tout ça. Ça commence avec le scénario. Tu as essayé de le résumer, et c'est très louable à toi parce que c'est très difficile. On a en effet une myriade d'histoires, hein, selon donc la tradition du film choral. Et ces histoires sont entremêlées d'une manière très plate, et certaines ne sont même pas bien survolées. Je pense à, entre autres, histoires. Amira Khazar, la femme donc de
c'est vrai.
D'Eddie Huber qui veut reprendre ses études. L'histoire doit durer 5 minutes à l'écran à peu près. Oui. On a José Garcia qui fait des bébés en 3 minutes. Enfin bon, il peut pas, mais après il peut. Enfin bon, je trouve ça tout à fait nul quoi comme scénario. Ensuite, c'est un film qui est quand même très très long. Hein, je vous préviens pour ceux qui ont la force encore d'aller le voir. Ça dure près de 2 heures. Dans le premier, surtout dans le deuxième, ce qui faisait le succès du film, c'était les scènes de fêtes juives. On avait à chaque fois une bar mitzvah, on avait un mariage à la fin. Enfin voilà, ça encadre les difficultés hein, du scénario. Ici, ça ne rate pas et elles prennent deux fois plus de temps. Elles phagocytent complètement le scénario. Donc c'est justement pour ça que les histoires du film choral ne sont pas développées, parce que on a ces scènes interminables. Résultat, on se fiche total de l'intrigue. Le ou les méchants n'existent absolument pas. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on croit, mais on s'en fout. En deux coups de cuillère à peau, voilà, ils sont en train de célébrer un nouveau couple, c'est-à-dire comme dans le 2, avec les mêmes costards que 10 ans auparavant, rien n'a changé. Voilà, c'est la conclusion du film, rien n'a changé, rien ne changera. On retourne au même point, et pourquoi se déplacer si c'est pour voir exactement la même chose?
Oui, alors, bon, je suis assez d'accord avec toi, mais je t'arrête quand même. C'est le principe quand même des films à saga, c'est-à-dire que la psychologie des personnages est établie dans le premier volet. Et ensuite, invariable.
Il y a des séries télévisées pour ça, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller au cinéma.
Bon, s'il fallait tout confesser pour ma part, je confesse avoir ri un petit peu par moment.
Oui, je me souviens, je t'ai entendu, mais bon.
Je suis d'accord pour les histoires, hein, le fait que ces histoires s'entremêlent de manière un petit peu, bizarre et sans grande nécessité. L'intrigue, en plus, tu ne l'as pas souligné, mais elle est quasiment la même que dans le 2, hein, pour rappeler un peu. Ils arrivaient à escroquer des gens en leur vendant des habits miniatures au lieu d'habits réels. Mais toutefois, les dialogues, je trouve qu'ils sonnent assez justes, assez performants, et on les sent parfois assez proches de l'improvisation. Ça fait plus.
C'est pas de l'improvisation, c'est de la roue libre. C'est des personnages, c'est des acteurs cabotins qui sont payés des millions d'euros pour faire les cons et qui sont très contents, mais c'est pas de la vraie improvisation. Enfin, c'est pas du talent pour moi.
Bon, oui, c'est filmé une bande de potes qui ont l'air d'être en plus de cela amis dans la vie. Et qui s'entendent bien à l'écran, ça donne des moments réjouissants. Tu me concéderas ça.
Quelques moments.
Tu me concéderas au moins quelques gags drôles quand même. La scène du restaurant où ils sont à Shanghai et où José Garcia chante l'immémorielle chanson de Jim Monson, Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Complètement ivre dans les bras d'un mafieux chinois.
C'était pas mal. Mais attention, il y a aussi des gags qui sont très, très lourds. Je te rappelle l'hommage à Rabbi Jacob. Salomon, vous n'êtes pas juif. Ça montre un peu à quel point ils se sont complètement surpassés.
Ouais. Hein. Bon, ils auraient pu faire mieux.
Oui, donc ils ont essayé de surcharger le film en gags. Il y en a 50 à la minute. Donc les acteurs en font des tonnes, tu l'as dit. On a carrément des pans entiers hein, du premier qui reviennent. Les scènes d'aéroport, les scènes avec les caisses qui contiennent la marchandise. Alors évidemment, oui. Comme il fallait faire plus grand que dans le deuxième, c'est 800 000 paires de chaussures. 800 000 paires de chaussures, vous imaginez devoir écouler 800 000 paires de chaussures. C'est vraiment dans le 3 hein, que ça peut arriver. Enfin bon, voilà, c'est du copier-coller en plus gros. Et puis, il y a aussi du plagiat d'autres films. Hein. Moi, je pense à la chanson « Ti amo » de Umberto Tozzi, où lorsqu'un couple se forme... leurs yeux se rencontrèrent, quoi. Ça appartient, c'est copyright Mission Cléopâtre. Hein.
On est d'accord que ça, c'est un petit peu du réchauffé, mais cela dit, on peut quand même pas reprocher au film de reprendre les moments cultes du 1 et du 2 en guise de clin d'œil. C'est-à-dire, bon, là, c'est Cyril Hanouna qui reprend le fameux Yalla
c'est clin d'œil sur clin d'œil, quoi. C'est plus un film, c'est un film bourré de tics, quoi, tellement il y a de clin d'œil.
Celles-là, elles sont à 39.
Je vais faire 27 comme les autres.
Non, mais tu plaisantes ou quoi? Les autres, elles sont en poil de zboub. Ça, c'est de la vachette argentine.
J'ai besoin d'un délai.
Tu nous payes en espèces. Et tu nous dis quand tu veux qu'on les encaisse.
En plus de ça, je voulais souligner que le monde qui est présent à l'écran est un monde qui n'existe pas. Et c'est encore plus criant que dans les deux premiers.
Alors, détaille-moi ça, là. Je suis intrigué.
Si tu veux, ici, on a une espèce de micro-société qui vit dans l'opulence des voitures de luxe, d'appartements dont la moindre des vues est la Tour Eiffel. Enfin, je veux dire, et c'est quand même des gens qui travaillent un peu les mains dans la marchandise. Ils ont quand même fait des marchés, etc. Enfin, c'est complètement surréaliste. On n'y croit pas une seconde et on se prend à détester tous ces personnages. On se prend à haïr tout simplement. Il y a une espèce de conception de la mafia juive qui a 50 ans de retard dans la représentation, voire qui n'a jamais existé. Et en plus d'être quand même légèrement antisémite, fond d'antisémitisme.
On y reviendra.
C'est complètement absurde, quoi.
Oui, bon, alors... On est d'accord que le film évolue un petit peu dans une temporalité qui n'a jamais existé. Hein, et le film a ignoré tout des changements économiques et politiques survenus depuis 10 ans.
La crise...
En 2008, il s'est quand même passé quelque chose d'assez intéressant sur le plan de l'économie mondiale. Bon, on peut encore, dans le monde de la vérité, si je mens, on peut encore acheter 800 000 paires de chaussures et faire une magouille pour les racheter ensuite 1 euro dans les entrepôts des douanes.
Ah non, c'est dingue. Puis alors, ces costards, ces bagnoles et ces costards roses crème là, je veux dire, c'est quand même les boules, hein, on n'en peut plus. Hein.
On est d'accord,
c'est très vulgaire, c'est fait exprès.
Passait mieux il y a 10 ans qu'aujourd'hui.
Ah, ça passait beaucoup mieux. Même si c'est fait exprès, toute cette vulgarité à l'écran, je trouve que voilà, c'est
un peu obscène.
Ça passe dans l'obscénité et dans c'est pas intéressant, ça n'a pas sa place, je trouve.
Absolument. Ben voilà, tu avais pointé, sans transition, hein, tu avais pointé l'antisémitisme de La Vérité si je mens. Et je suis assez d'accord, je te rejoins là-dessus. Le film peut vraiment servir de tremplin à l'antisémitisme latent d'une partie de la population. Les deux premiers, autant qu'on se souvienne, n'avaient jamais posé de vrais problèmes. L'ambiance était sympathique. On avait une petite série de clichés sur les Juifs du Sentier, les pieds noirs et les séfarades en général. Hein, voilà, des moments de fraternité, couscous, bar mitzvah. Mais bon, en des temps où certains stigmatisent la communauté juive, le film est quand même un pari assez osé, parce qu'ils n'ont vraiment pas renoncé justement au côté vraiment juif du film.
De toute façon, ils ne pouvaient pas vraiment faire ça. La marque de fabrique, c'est ça qui fait venir vendre. C'est la mama, les boulettes.
Absolument.
Moi, je trouve ça pas très drôle, mais...
Fallait-il les présenter comme des hommes d'affaires nés, liés à leur mère jusqu'à la fin de leur jour?
Moi, je pense que ça, c'est la recette, c'est ce qui était drôle dans les premiers. Qui là, la machine tourne un peu à vide, mais c'est ce qui était drôle dans les premiers, quoi.
Oui.
Un peu d'autodérision aussi.
Et on a vu que ça avait fait des petits quand même, puisque Coco, hein, de Gad Elmaleh, allait dans ce sens-là.
Oui.
Raviver
gros
un peu
bide,
le
gros
mythe.
Bide, d'ailleurs.
Oui, gros bide, oui, c'est vrai. Il n'a pas marqué les esprits et voilà, il ravivait un peu ce mythe d'une communauté séfarade absolument... indissoluble et non pratiquante, bien sûr. Bon, très bien. Je voulais aussi aborder une dernière question qui est toute nouvelle dans la saga, pour finir. Et propre à ce film-ci, les héros font affaire avec un Chinois et partent même, ils quittent la région parisienne, leur région parisienne chérie, pour aller dans l'Empire du Milieu, où leur arrivent de nombreuses aventures.
Enfin non, même pas. Enfin, pour reprendre ce que j'ai dit, il leur arrive de nombreuses aventures. Non, ils passent 24 heures en Chine, ça fait 5 minutes à l'écran, et puis toute la promo du film tient là-dessus, alors que c'est vraiment faux. Hein.
Mais je voulais surtout aborder en fait, la naissance au cinéma français de la peur du chinois. On construit peu à peu le chinois comme un homme d'affaires né, lui aussi, mais un super homme d'affaires capable de faire la pluie et le beau temps. Ils n'en conçoivent pas non plus une peur irrationnelle, mais
on devrait... C'est vrai, c'est vrai. Et oui, je voulais dire aussi que le film cristallise bien quelque chose dans notre société. C'est le passage de blagues sur les Juifs, de blagues sur les Arabes, à blagues sur les Chinois.
Absolument.
Qui est beaucoup plus politiquement correct. Et donc là, ce film montre bien cette transition-là. Et c'est
absolument
en ça aussi qu'il est assez répugnant. Hein,
voilà. Disons qu'il faudrait vraiment passer au stade supérieur de la représentation des personnes asiatiques de manière générale et en faire des vrais personnages plutôt que des espèces de faire-valoir comiques. Je cite à la volée, ils se prennent la tête avec le chef de l'homme d'affaires chinois, il se met à faire du kung-fu, après il les invite au restaurant, il mange des chiens, des singes, etc. Bon, bref. Bon, s'il fallait conclure, Pauline, un film sympathique, assez petits bras, qui se contentent de faire rire avec de vieilles blagues, des blagues sur les Chinois.
Ouais.
Et voilà, on se repose un peu trop sur le potentiel comique des acteurs qu'on a certes grand plaisir à retrouver.
Pour certains,
même s'ils sont un petit peu sous-exploités.
Oui.
Nous sommes ensemble, la diversité et la créativité. Le cinéma français, c'est nous, c'est vous. Cher cinéma français, je déclare ouverte la 35e cérémonie des Césars.
Alors, passons aux deux cérémonies qui vont donc occuper
l'actualité.
Qui commence déjà à l'occuper.
Les Césars arrivent fin du mois, autour du 20 février. La cérémonie se tiendra comme d'habitude au Théâtre du Châtelet et sera présentée par Antoine de Caunes, il me semble, pour la énième reprise. Un film a particulièrement emporté le gros lot au niveau nomination. Il s'agit de Police de Mai Wen. J'avais quelque peu exprimé mon désarroi déjà dans quelques précédentes émissions. Un film un petit peu trop complaisant, extrêmement formaté cinéma français et qui a tout pour devenir une véritable brouette à César. 13 nominations quand même.
Juste pour rappeler donc les nominations. Donc 13 nominations pour Police, 11 pour L'exercice de l'État, un film
Absolument.
Qui est passé au niveau entrée un peu inaperçu, mais qui a quand même bien marqué le 7 automne. 10 nominations, évidemment, c'est incontournable pour The Artist. 9 pour Intouchable, c'est une surprise. 8 pour L'Apollonide de Bertrand Bonello. 6 pour La guerre est déclarée.
Et ensuite,
3 pour Le Havre, voilà. Angèle et Tony. Et puis 2 pour d'autres films qui ont plus ou moins marqué les écrans.
Absolument. Revenons vite fait sur L'exercice de l'État. C'est une belle surprise, hein. On est ravis de voir ce film très intéressant valorisé au César.
Oui, qu'on avait beaucoup aimé, très violent sur le monde de la politique.
Absolument.
Avec cet acteur dont je...
Avec Olivier Gourmet,
excellent acteur, sous-exploité par le cinéma, mais excellent
Absolument.
Acteur. Oui, c'était très marquant, moi ça m'a... Je suis très contente que des films comme ça, de temps en temps, les Césars font des bons choix.
Absolument.
On peut se demander si remettre 9... Enfin, donner 9 nominations à Intouchable, c'était un aussi bon choix, mais ça fait suite au scandale que Danny Boone avait soulevé, puisqu'avec son Bienvenue chez les Ch'tis, il n'avait pas eu une seule nomination l'année de sa sortie.
Absolument, et il avait milité pour la création d'un César de la meilleure comédie.
Oui.
Les Césars ont sans doute cherché à rendre justice
aux
comédies françaises et au cinéma populaire en nominant abondamment Intouchable.
Ouais, espérons que ça ne sera pas traduit dans les faits par beaucoup de Césars, parce que...
Absolument.
C'était quand même une sombre idiotie. Mais...
Quant aux 6 nominations de L'Apollonide, elle marque la sortie pour Bertrand Bonello d'un cinéma quelque peu underground, confiné au milieu intellectuel parisien.
Il est enfin plébiscité
pour un film quand même assez formaté Canal+, et qui là encore est parfaitement césarisable.
Oui, mais qui n'était pas détestable. Pour autant détestable.
Non,
c'était
pas détestable.
On avait bien aimé en septembre.
Voilà. Et si on fait le compte, il reste La guerre est déclarée avec ses 6 nominations. Et en gros, aucun des grands succès du film d'auteur cette année n'a été oublié.
Si, je voulais parler de Mathieu Kassovitz avec L'ordre et la morale, qui a été oublié par les spectateurs, hein, puisque son film, qu'il a mis des années à réaliser, n'a réuni que 200 000 spectateurs. Il en était furieux et très peiné.
Il a déclaré
j'encule le cinéma français, donc sur son Twitter. Et il y avait un portrait de lui dans Libération cette semaine. Il était très chagriné par le fait qu'il ait eu qu'une seule nomination aux Oscars.
Aux
Oscars, il aurait été moins chagriné. Mais au César.
D'autres comme lui ont été assez mal payés. Coris Maki avec Le Havre a remporté le prix Louis Deluc et se voit remporter un lot de consolation. Les Neiges du Kilimandjaro ne remportent qu'une nomination. Et Pater d'Alain Cavalier, des films un peu plus exigeants et personnels, restent à la porte de ces Césars.
Ça reste les Césars, hein, quand même. Ça reste les Césars.
Passons aux Oscars du cinéma américain, beaucoup plus décevants, et ce, d'année en année, ça ne fait qu'empirer. Le haut du panier, c'est 11 nominations pour Hugo Cabret de Martin Scorsese, 10 nominations pour The Artist, hein, tout comme au César, 6 nominations pour Cheval de Guerre, 5 pour The Descendants et Millennium, Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes. Je vous passe la suite. Hugo Cabret est un film plus que mineur, qui doit ses 11 nominations à une combinaison de facteurs, à la fois un beau succès public et le fait qu'il s'agit de l'œuvre d'un cinéaste important.
Scorsese, que
l'on cherche à couvrir de gloire tout doucement. Ça commence à sentir la fin.
C'est comme pour Cheval de Guerre de Spielberg. Regrette presque, parce qu'il a quand même sorti 2 films cette année, Tintin et donc Cheval de Guerre. Et à mon avis, Tintin est beaucoup plus ambitieux et méritait peut-être plus sa place dans les nominations aux Oscars.
Bien sûr. La Dame de Fer, La Couleur des Sentiments, donc les bons films hollywoodiens insipides, les biopics très à la mode, sont plébiscités. Des blockbusters archi-académiques tels que Harry Potter, le dernier volet d'Harry Potter ou Transformers 3 sont également nominés. Pour info et pour clôturer le débat, Transformers 3 a autant de nominations que The Tree of Life, Palme d'Or de Terrence Malick, ce qui peut laisser songeur.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Passons enfin à la dernière partie de notre émission. Nous accueillons un invité de prestige pour parler avec nous des écoles de cinéma et des études de cinéma en France. Antoine Delahaye, bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau prestigieux. J'en suis tout ému, tout émoustillé. Je n'en puis plus. J'ai fait des mauvais rêves et je sens que je tienne le cap. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir.
Voilà, on sent à sa prise de parole qu'il s'agit d'un original. Aussi bien que d'un amoureux du cinéma.
Oui, d'ailleurs j'aurais bien voulu commenter toute cette belle discussion sur le cinéma, mais je vous épargnerai ça.
Malheureusement, tu n'es que notre invité et voilà. ton sujet est donc les écoles de cinéma.
Ah, je croyais que c'était les sandales en Afghanistan.
Voilà. Non, c'est les écoles de cinéma.
Bon, je vais m'arranger.
Première question, donc tu es à l'IECA de Nancy, qui est l'une des seules écoles publiques de cinéma en France. On sait que c'est un domaine, les écoles de cinéma sont un domaine essentiellement privé, hein. C'est des écoles qui vous font payer 8000 euros par mois pour des quelques stages au rabais. Comment te définir, est-ce que tu remarquerais un avantage principal à être dans une école publique plutôt que privée?
L'avantage principal est très très simple, c'est vraiment économique, c'est les droits de l'université qui sont à payer, et c'est pas les 2000 euros de l'ESSEC,
L'ESSEC, c'est une école de commerce. L'ESRA.
J'ai confondu. Voilà. Économiquement, c'est beaucoup plus abordable.
Donc, c'est rattaché. Donc, ton école est rattachée à la faculté de
voilà,
Nancy.
C'est l'IECA. C'est un petit bâtiment, un petit organisme qui est séparé quand même de Nancy, de l'université de Nancy, mais qui en fait partie. Donc.
D'accord. Et donc, décris-nous un peu ta formation.
Alors, c'est un peu une relation. C'est un peu un cursus un peu entre un cul, entre deux chaises.
Je t'en prie.
Si on peut se permettre cette expression. Parce que en fait, on commence les études en troisième année et on nous fait une troisième année un tronc commun. Et ensuite, on peut se spécialiser en master, en deuxième année de master, soit en production,
oui.
Particulièrement pour les documentaires, mais aussi sur la fiction. Ou alors, on peut faire un master de recherche, même si dans ce domaine, les universités parisiennes sont beaucoup plus réputées.
D'accord. Est-ce que tu dirais que vous êtes un peu, d'une certaine manière, formaté? Alors, on parle souvent du formatage à la Fémis, hein, donc la reine des écoles de cinéma qui se trouve à Paris dans le 18e arrondissement, qui est voilà, la mère de toutes les écoles de cinéma en France.
Est-ce que tu ressens...
Et le père. Est-ce que tu ressens, toi aussi, un formatage à l'IECA?
Eh ben, justement, beaucoup moins. On est vraiment très très libre sur les choix des sujets de court-métrage, même si on travaille avec Philippe Claudel, un écrivain et aussi cinéaste et metteur en scène de théâtre, qui lui a qui quand même apporte son background, son ambiance, qui peut parfois être un peu grise, un peu désespérée. Mmh. On a eu des sujets comme l'indifférence ou la surveillance. C'était pas forcément propice à l'euphorie, le travestissement et autres ingrédients du genre. Ça veut rien dire, mais c'est, dans ma tête ça marche. Mais franchement, on a vraiment libre de partir dans tous les tripes qu'on veut. Voilà.
Ouais. Alors je voulais rebondir sur ce que tu disais avant. Tu disais que on vous encourageait à devenir producteur de documentaires essentiellement. Est-ce que c'est un secteur qui recrute plus que la fiction? Est-ce qu'il y a plus de chances de trouver du travail?
Je pense que oui. Ouais. Je pense que les documentaires sont moins coûteux en coût de production.
Oui.
C'est beaucoup plus facile d'en faire et ça se diffuse beaucoup mieux. De manière, sur les chaînes de télé, ça se diffuse
c'est
beaucoup
ça,
mieux.
C'est ça, oui, voilà, les télévisions en bénéficient.
Voilà. Un téléfilm de France 2 ou de TF1 va coûter beaucoup plus cher, l'équivalent d'un petit long métrage. Donc ça demande beaucoup plus de moyens. Le documentaire s'apprête bien à la télévision avec l'expansion des chaînes de l'espace.
Voilà, de la TNT. La TNT.
Voilà.
Du paf pif.
Et est-ce que tu ressens une concurrence entre les élèves d'autres écoles de cinéma, par exemple? Je ne sais pas, est-ce que dans votre école, vous côtoyez des élèves d'autres écoles de cinéma?
Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on ait des petits fights comme ça, genre l'IECR contre la Fémis, combat de catch, tout ça.
j'en conclue que non.
Non, c'est dommage. Mais ouais, c'est regrettable. Il y a quelque chose d'un peu de mou parfois. Dans une administration universitaire, des fois, on aimerait bien qu'il y ait du feu d'artifice ou quelque chose comme ça. Des étincelles ou du sang, je ne sais pas.
Ouais, je voulais juste aborder sans transition, en étant dans le sang. Mais d'ailleurs, on va retrouver un peu le sang d'une certaine manière. Je voulais parler de la cagne. Tu as suivi une cagne. Oui, vous voyez, le lien avec le sang était...
C'est vrai que ça a été une boucherie. Ouais. Hein.
Voilà. Alors, donc, tu as suivi une option de cinéma. C'est assez méconnu, hein, quand même.
Il y en a assez peu.
Il y en a assez peu en France. Hein, il y en a environ 6 ou 7. Alors, de bons souvenirs, de mauvais souvenirs et surtout, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté pour les études que tu fais aujourd'hui?
Alors, je rappelle juste le paysage. Donc... d'après une discussion que nous avons eue avec le directeur de Transistor tout à l'heure, il y aurait à peu près 5 prépas qui proposent des options cinéma dans leur cursus de prépa lettres, donc Hippocane-Cane. Venant d'un lycée où on avait fait 3 années d'études sur le cinéma, on est arrivé dans une classe qui eux n'en avaient pas forcément eu un apprentissage ou une initiation au cinéma, donc on a revu des bases qu'on avait déjà eues. Du coup, il y a eu une espèce de lassitude comme ça. Mais d'un côté, c'était des profs qui étaient... Il y avait surtout une prof, je pense à Madame Schott, à Nancy, au lycée Henri Poincaré, qui avait quand même un apport Elle était prof de philo aussi, donc elle apportait une vision sur les films assez intéressante. Elle nous ouvrait sur des films.
Mais on remarque souvent ça, la connexion entre l'enseignement de la philosophie et du cinéma. Beaucoup de professeurs de philosophie deviennent ensuite professeurs de philosophie,
passent des films à leurs élèves.
Absolument. La philosophie a véritablement investi le cinéma.
Ah oui, tout à fait.
Pour terminer, en gros, j'aimerais te demander quels sont tes projets actuels. Tu tournes toi-même pour le plaisir. Tu te formes sur le tas.
En gros, en ce moment, on prépare donc le second court métrage de l'année. Oui. Le premier a déjà été tourné. Il s'appelle Geeks Bang et vous pouvez le trouver sur YouTube. Et donc là, on est en phase de, on termine le scénario. On va commencer le découpage. On est à la recherche de certains acteurs. On en a déjà trouvé certains. On recherche des lieux de tournage. Et
tu fais un appel
C'est un appel. Voilà. Des Nancéens écoutent peut-être notre chère radio.
Voilà, j'espère que tout Nancy s'enflammera à cet appel. Nous cherchons des figurants pour une scène d'enterrement joviale et sympathique dans une église.
Voilà, tu as peut-être un site internet à nous indiquer
Je vous conseille fortement d'aller visiter... mon blog qui s'appelle theroad.canalblog.com, donc The Road comme en anglais la route. C'est de la promotion déloyale et pure et dure, et j'assume.
De la promotion éhontée.
Voilà, exactement. Et je remercie l'ENS de m'offrir cette occasion.
Eh bien, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup à toi.
Oui, merci Antoine.
Merci Pauline et merci Cyril de m'avoir laissé m'incruster ici. Merci à l'ENS. Et j'aimerais faire une petite dédicace à certains de mes camarades.
Je t'en prie.
Hugo Rosso, Amoral, si tu m'écoutes, je te fais des grosses bises. Et Jeannot, j'espère que tu iras mieux. Et Lola, chante du Renault sous la douche, ça fait du bien.
C'est dit.
Merci beaucoup.
Nous arrivons au terme de ce 26e numéro de Transversar consacré au cinéma. Et nous espérons que nos discussions de comptoir vous auront diverti et sinon intéressé quand même quelque peu. Au revoir Pauline.
Au revoir Cyril.
On se retrouvera dans environ 3 semaines, 1 mois pour un nouveau numéro. D'ici là, bon film à vous et à bientôt sur Transistor.
À bientôt.